France Musique.
Merci Coco.
Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 5 septembre, soyez les bienvenus sur France Musique. David Travailleur est à la réalisation, Jean-Frédéric, Maïwenn Lejean et Dalia à la technique. Bienvenue dans cette émission consacrée à la culture, à l'écologie, au chant choral et à la musique bien sûr. Et voici le menu du jour. À 7h45, le violoncelliste Jérôme Pernaud partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin fêtera l'anniversaire de Jean Chrétien Bach. À 8h15, notre reportage, bien sûr, Sophie Anastasio nous fera découvrir Percé, un spectacle d'Alexandra Lacroix qui met en regard Camille Saint-Saëns et des récits de migrants venus d'Iran et d'Afghanistan. À 8h30, nous recevrons Céline Porte et Solveig Barbier qui font partie des membres fondateurs de l'association Art Viva. Et puis enfin, à 8h50, Christophe Chassol nous parlera d'un musicien sous-estimé, pas très connu, du jazz-rock, David Sentius. Très très bon réveil à l'écoute de France Musique.
Thank you.
L'amour malheureux de la magicienne Armide pour le chevalier Renaud. L'ouverture d'Armide de Lully, créée en 1686 et qui marque l'aboutissement de la longue collaboration entre Lully et son librettiste Philippe Quinault. C'est un nouvel enregistrement, Hervé Niquet et son concert spirituel qui en propose ici la version révisée par Louis-Joseph Francoeur en 1778. Un disque qui vient de paraître chez Alpha en partenariat avec France Musique. Une autre nouveauté à notre programme ce matin avec un de mes chouchous, Jonas Kaufmann, qui a profité du confinement pour enregistrer un merveilleux album de Lieder avec son ami et pianiste de longue date Helmut Deutsch. Son titre « Selige Stunde », qui peut se traduire par « L'heure bénie ». On peut y entendre Liszt, Brahms, en passant par Mozart, Schumann, mais aussi Schubert. Et Franz Schubert que je vous propose d'écouter ce matin avec ce Lied peu connu, Lied composé sur un texte de Goethe. Aux côtés de Jonas, saluons la nature bienveillante, les doux rayons du soleil et surtout le pouvoir bienfaisant et la magie de la musique.
Durch Feld und Wald zu schweifen, ein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Takt der Reget und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Blüte am Baum. Sie grüßen meine Lieder, und kommt der Winter wieder, sing ich noch jenen Traum, sing ich noch jenen Traum. Ich sing ihn in der Weite, auf Eises Läng und Breite, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön. Auch diese Blüte schwindet und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen, und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen. Denn wie ich bei der Linde das junge Völkchen finde, sogleich erreg ich sie. Der stumpfe Bursche bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie, nach meiner Melodie. Ihr gebt den Sohle Flügel und treibt durch Tal und Hügel den Liebling weit von Haus, den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holden Musen, wann ruh ich eh am Busen noch endlich wieder aus? Wann ruh ich eh am Busen auch endlich wieder aus?
Le Lied der Musenzone de Franz Schubert, interprété par Jonas Kaufmann et Helmut Deutsch, un extrait de ce disque Selige Stunde, qui peut se traduire donc par l'heure bénie. Un nouveau disque qui paraît chez Sony en partenariat avec France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et une autre nouveauté ce matin, toujours remarquée par France Musique, le nouveau disque d'Alexandre Kantorov, disque magnifique construit autour de trois rhapsodies, Franz Liszt, Johannes Brahms et Béla Bartók, et c'est Liszt que j'ai choisi pour vous ce matin. Alexandre Kantorov au piano, un extrait de son nouveau disque qui paraît chez Bis, en partenariat avec France Musique. On écoutait ici la Rhapsodie hongroise numéro 11 de Franz Liszt. Et c'est l'heure du show musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner avec nous ce matin, Jérôme Pernaud. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Eh bien, ça va très bien.
Vous êtes quelqu'un de matinal ?
Même à une heure matinale. Oui. Quand il fait beau comme ça à la Roche-Posay, c'est merveilleux.
C'est vrai, on va parler de la Roche-Posay évidemment. Qu'y a-t-il sur la table de votre petit déjeuner, Jérôme ?
Alors, il y a du fromage blanc, avec du sirop d'agave bien sûr, hein, pas de sucre trop glycémique. Je fais attention.
Ah, mais évidemment.
Alors parlons. Beaucoup de café hein, en ce moment.
Pour se mettre en forme pour les vacances de Monsieur Haydn, vous êtes directeur artistique de ce festival dont la 16e édition est maintenue pour notre plus grand plaisir. Ça se passera du 17 au 20 septembre. Vous nous en dites un petit mot, Jérôme.
Avant tout, il faut dire que ça va se passer évidemment derrière les masques avec plein de mesures barrières et des barres de mesure, bien sûr, pour les musiciens, mais pour le public aussi. Et du coup, on sera tous en bonne sécurité pour écouter de la musique. Ça va faire du bien de se retrouver hein, en vrai, en chair et en os.
On est bien d'accord. Je crois que même chaque concert sera joué deux fois pour permettre au maximum de festivaliers de profiter des festivités. Festival international de musique de chambre qui se tient donc à La Roche-Posay. Une édition qui mettra à l'honneur la musique des compositeurs anglais.
Oui. Quand même, Haydn a une relation assez spéciale avec l'Angleterre. Il est allé deux fois à Londres dans sa vie. Ça a été vachement important. Et il a découvert la musique de Handel, les oratorios. C'est après ça qu'il a écrit ses grands oratorios, la création, les saisons. Et là, il va faire rencontrer au public du festival des compositeurs qu'il a jamais connus, bien sûr, aussi, comme Bridge, Elgar, il y aura aussi du Purcell, du Handel, et on va évoquer comme ça cette musique anglaise qui est quand même très rarement jouée en fait, hein. Le quintet de Bridge par exemple, on a rarement entendu ça ici, les musiciens du festival l'ont très rarement joué, voire pas du tout, que ce soit le quintet d'Elgar ou la fantaisie de Bridge, c'est des œuvres qui sont extrêmement belles, très romantiques, et puis qui évoquent vraiment l'Angleterre, avec ce côté à la fois parfois pompeux, qu'ils aiment bien, et puis d'autres fois très très raffiné, très fantasque, magique. Il y a beaucoup de magie dans l'univers anglais.
10 concerts en soirée dans le cadre du festival IN. Il y a aussi un off hein, dans ce festival, les vacances de Monsieur Haydn. 49 concerts gratuits en matinée et dans l'après-midi. Parmi les musiciens qui seront présents, je pense à Karine Dey ou à Lucas Debargue, compositeur en résidence. Il y a plein d'informations sur le site www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com pour prendre vos tickets pour assister à ce festival. Allez, passons dans notre sujet, à notre choix musical, à l'heure du petit déjeuner. Qu'avez-vous souhaité partager avec nous ce matin, Jérôme Pernaud?
Et ben là on va faire British hein, avec le fameux Frank Bridge, et c'est un enregistrement que j'ai fait avec Jérôme Ducrot il y a fort longtemps, d'une sonate magnifique pour violoncelle et piano de Bridge.
Merci beaucoup Jérôme Pernaud.
Merci.
Et bonne journée.
Merci, à très bientôt.
Quelques mesures de ce premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Frank Bridge avec Jérôme Pernaut et Jérôme Ducrot. Et nous ouvrons ce matin le festival de Royaumont qui ouvre ses portes demain. Il se tiendra jusqu'au 31 octobre. La Fondation Royaumont qui propose 18 rendez-vous qui mettront à l'honneur le répertoire de la voix, de la création musicale, de la danse contemporaine et du spectacle jeune public aussi. À noter à votre agenda ce concert le samedi 31 octobre, 20h30. Le festival accueillera pour son concert de clôture le contre-ténor Paul-Antoine Benos-Djian. Vous avez peut-être entendu sur les ondes de France Musique cet été puisqu'il participait à notre grand festival. Paul-Antoine Benos-Djian qui jouera aux côtés du Consort, cet ensemble fondé par le claveciniste Justin Taylor. Alors ce matin, je vous offre de quoi vous mettre dans le bain. Opus 1, c'est le titre du dernier disque en date du Consort. Il est paru chez Alpha à la fin du mois d'août. Un disque de sonates en trio d'Arcangelo Corelli et de Jean-François Dandrieux. C'est un très très beau disque que je vous offre ce matin. Alors pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur « Contactez-nous » et vous laissez vos noms, prénoms et adresses postales complètes et puis la bonne réponse à la question qui va suivre. Et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Alors ce matin, je vous propose de deviner, et je l'ai dit un petit peu plus tôt si vous avez été attentif, de deviner l'instrument dont joue Justin Taylor. Est-ce de l'orgue, du clavecin ou alors du tuba? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Thank you.
Quelques extraits de la sonate en sol mineur, opus 1, numéro 3 de Jean-François Dandrieux, interprété par Le Consort, un extrait de ce nouveau disque paru chez Alpha que je vous propose de remporter ce matin sur francemusique.fr.
Vendredi 11 septembre à 21h, Musique en fête enflamme le théâtre antique d'Orange en direct sur France 3 et sur France Musique. Honneur à toutes les musiques avec Béatrice Souria-Monzon, Julie Fuchs, Patricia Tioffi, Florian Sampé, de nombreux jeunes talents, l'Orchestre National de Montpellier-Occitanie. Rendez-vous vendredi 11 septembre sur France 3 et France Musique, Musique en fête en direct du théâtre antique d'Orange, présenté par Cyril Ferraud et Judith Chen.
Tout Radio France dans votre mobile. Avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move ou France Bleu et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux stores.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h. Et nous accueillons à présent Marc-Olivier Dupin pour sa chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Nous célébrons un anniversaire aujourd'hui.
Eh oui, celui du petit dernier. Le petit dernier, c'est Johann Christian Bach, fils d'Anna Magdalena et de Jean-Sébastien. Il est né le 5 septembre 1735 à Leipzig et compositeur organiste, il a traversé le XVIIIe siècle de façon singulière.
Marc-Olivier, en quoi son parcours est-il singulier ?
Alors, la psychanalyse dirait qu'il a su tuer le père, s'en affranchir. Contrairement à Jean-Sébastien, il a séjourné dans beaucoup de villes différentes en Europe. Il a été organiste à la cathédrale de Milan, après sa conversion au catholicisme, ce qui est assez singulier pour le fils du cantor de Leipzig, qui a écrit tant de musiques religieuses en lien avec Luther. Et puis, il a été maître de musique à la cour d'Angleterre. Il a beaucoup écrit pour la voix, mais contrairement à son père, il ne s'est pas limité aux œuvres sacrées. Il a beaucoup composé pour l'opéra. Un extrait du final de Zanaïda, bien péchu.
Opéra Foucault, dirigé par David Stern, ici, dans cet extrait du final de Zanaïda, créé en 1763 au King's Theatre de Londres. En fait, les musiciens voyageaient déjà beaucoup.
Oui, par le réseau des cours royales, de multiples échanges permettaient un grand brassage de la vie musicale savante. Sur la musique populaire, on en sait évidemment beaucoup moins, puisque c'était des traditions orales, mais par les musiques de cours, et on sait tout des rencontres entre les artistes. C'est assez extraordinaire. Alors, parmi les rencontres de Jean Chrétien, chrétien, il faut signaler son amitié avec le peintre Gainsborough, qui a fait un magnifique portrait qu'on peut voir à la National Gallery à Londres. Ce portrait, d'ailleurs, est étonnant parce qu'il est d'une grande modernité. On n'a pas l'impression de voir un musicien du XVIIIe siècle, mais plutôt quelqu'un qu'on pourrait rencontrer dans les concerts de Radio France, par
exemple.
Bien
sûr.
Et puis, il a aussi, chose à remarquer, il a eu une très grande influence sur Mozart. Mozart l'a rencontré quand il avait 8 ans et il a inspiré un certain nombre d'œuvres et de transcriptions à Mozart. Alors c'est étonnant, il a énormément écrit pour la voix, pour des chœurs, une écriture magnifique qui est vraiment toujours extrêmement dynamique. Il y a une énergie dans cette musique qui est tout à fait magnifique. Et c'est d'autant plus étonnant que cette vie musicale était totalement en mouvement quand il a composé. Et on retrouve des choses de l'opéra, du chœur, de la musique religieuse, telles que par exemple ce splendide Miserere en si bémol majeur.
Plongez-vous dans l'œuvre de Jean Chrétien Bach, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc-Olivier, de nous avoir fait écouter ses œuvres, dont ce splendide, effectivement, Miserere, à réécouter ici avec le Rias Kammerchor, notamment. Marc-Olivier, on vous retrouve la semaine prochaine, évidemment.
Avec joie. Merci, Saskia.
Bonne journée. Le troisième mouvement presto de la symphonie concertante pour violon et alto en mi bémol majeur que Köchel 365 de Mozart. On écoutait ici Giuliano Carmignola, Danusha Vaskevitch, l'orchestre Mozart et Claudio Abbado à la direction. À suivre une danse, une mazurka qui se réfère au folklore polonais. Son auteur, Frédéric Chopin. On écoute au piano Cédric Tiberghien. Nous écoutions à l'instant cette mazurka opus 59 numéro 3 en fa dièse mineur de Frédéric Chopin sous les doigts de Cédric Tiberghien. Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Sophie Anastasio.
Bonjour Saskia.
Demain, dans le 18e arrondissement de Paris, le tout nouveau parc public Chapelle Charbon va accueillir le spectacle Percé. C'est un projet qui mêle et met en regard des récits de personnes exilées venues d'Iran et d'Afghanistan et les mélodies persanes de Camille Saint-Saëns.
Alors tu me donnerais un nouveau texte ?
Ah oui, bien sûr.
L'heure est encore aux répétitions dans le gymnase de main-d'œuvre à Saint-Ouen. Dans la grande salle presque vide, le ténor François Rougier s'échauffe la voix. La guitariste Christelle Seri s'accorde et la comédienne Mina Cavani se prépare. Tous trois sont réunis sur le spectacle Percé d'Alexandra Lacroix. La metteuse en scène nous raconte la naissance de ce projet.
Quand la ville de Paris a demandé de créer quelque chose au parc Chapelle Charbon, moi j'étais très ancrée dans ce travail avec les réfugiés à la halte d'accueil des migrants de l'Armée du Salut, et c'est un travail qui marque beaucoup, des rencontres qui marquent beaucoup, et j'ai eu des rencontres très fortes avec des Iraniens et des Afghans, et du coup j'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai recueilli leurs histoires, leurs trajectoires, et ça m'a fait repenser à ce regard de Camille Saint-Saëns et de Armand Renaud sur les mélodies persanes. Et j'avais envie, du coup, de mettre en résonance cette œuvre-là avec ce regard et ces témoignages des réfugiés avec lesquels on était en contact.
Je faisais des nus artistiques. J'étais un gros danger pour mon pays. À cette époque, certains de mes amis sont venus à Istanbul et m'ont dit « Ton nom est dans la liste ».
Les spectateurs sont invités à découvrir des témoignages de personnes réfugiées, exilées, qui ne sont pas ceux directement recueillis par Alexandra Lacroix. Parmi eux, le récit d'une mannequin iranienne qui a dû fuir son pays. Il est interprété comme les autres par la comédienne iranienne Mina Cavani, elle aussi réfugiée.
Moi-même, je suis interdite de retourner dans mon pays depuis 7 ans maintenant. J'ai joué dans un film où ce film a rendu... le gouvernement iranien, ils n'ont pas accepté ce film et ils m'ont beaucoup attaqué dans la presse iranienne. Et à partir de ce moment-là, j'étais obligée de faire cette demande de réfugié politique. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai mon statut. Puis bien évidemment, le thème de exil, d'immigration, tout ça me touche beaucoup parce que je vis avec... 24 sur 24, c'est un traumatisme qui me lâchera jamais et qui sera toujours avec moi.
Je me souviens d'avoir reçu la proposition d'un homme qui m'a même forcé de coucher avec lui. Qui m'a dit clairement, tu dois coucher avec moi. Et je me souviens quand je lui ai dit non, il m'a craché au visage.
Tous les récits sont mis en regard avec les mélodies persanes de Camille Saint-Saëns. Vous avez entendu ici La Brise. Elles sont interprétées par le ténor François Rougier avec une réflexion portée sur les textes.
Globalement, c'est un corpus très beau. Il y a de très chouettes ambiances. Enfin, il retranscrit plein de choses. Mais quand on se penche sur le texte, et c'est souvent le cas dans le répertoire lyrique, on se dit quand même... Ce qui est raconté là, aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce qu'on peut vraiment continuer à raconter ce genre de choses ? Donc, du coup, le choix d'Alexandra de le mettre en regard avec des récits d'exilés de l'Iran, de l'Afghanistan, donc de la même région que ce que racontent les mélodies persanes, permet de prendre du recul avec ce regard très occidentalo-centré du XIXe, sur la Perse du XIXe et même d'avant le XIXe, et donc d'interroger ces textes. Je nourris cette interprétation de tout ce qui se passe dans le spectacle, de ce que racontent de ces récits, de ces témoignages d'exilés, et voilà comment ça entre en résonance avec ces mélodies, avec les textes de ces mélodies.
« La musique de la partition a été adaptée pour guitare électrique par Christelle Seri. Ses notes accompagnent tous les récits, celui d'un journaliste qui a été torturé, un migrant fuyant la guerre. Une façon de montrer la réalité des nombreuses et différentes trajectoires que l'on regroupe sous un même mot, celui du terme d'exil.
Percé, ce spectacle est donc à découvrir ce dimanche au parc Chapelle Charbon, porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est à 16h30. Merci beaucoup, Sophia Anastasio, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique. Thank you.
Fuga y Misterio de l'opéra Maria de Buenos Aires d'Astor Piazzolla, interprété ici par le quatuor Artemis Heim-Müller et Jacques Hamon au piano. Un petit mot sur ce soir, sur ce qui vous attend sur nos ondes au menu de l'émission samedi à l'opéra. Judith Chen vous proposera de découvrir, redécouvrir cet opéra extraordinaire Agrippina de Georg Friedrich Händel, l'histoire d'Agrippine prête à tout pour que son fils Néron monte sur le trône. À l'affiche, l'orchestre de l'âge des Lumières, dirigé par Maxime Emelianichev, au Royal Opera House et Joyce DiDonato dans le rôle titre, concert enregistré donc à Londres, c'était en octobre 2019. En voici un extrait.
Thank you.
Onivento, Herr d'Agrippine, extrait de cet opéra de Georg Friedrich Händel avec Joyce Di Donato, ici, qu'on retrouvera à l'affiche de votre soirée, de notre soirée opéra, ce soir sur France Musique, c'est à 20h, avec Judith Chen.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin en studio Céline Porte et Solveig Barbier. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors Solveig Barbier, vous êtes responsable de production à la Grange au Larc. Céline Porte, vous êtes déléguée générale de l'ensemble Correspondance. Vous faites toutes les deux partie des membres fondateurs d'une association qu'on va découvrir ce matin. Arviva, c'est son nom. Arviva, art vivant, art durable. Céline Porte, quelle est la vocation d'Arviva?
Alors Arviva est né non pas pendant le confinement, mais avant le confinement. On venait tous de structures du spectacle vivant et on se sentait tous concernés par la transition écologique de nos structures. On a commencé à se réunir pour réfléchir à comment on pouvait agir très très pragmatiquement. Et puis bah, évidemment, la crise du Covid a donné un petit coup d'accélérateur à cette naissance d'association. On a voulu un outil avant tout durable, lui aussi, pour parler de développement durable. Une association nationale, du coup, qui a donc vocation à agir sur trois grands axes. Le premier, c'est de donner un outil qui est le guide pour l'action à destination des structures qui veulent changer leurs pratiques au quotidien. Guide pour l'action que peut-être Solveig pourra utilement développé. Le deuxième point, c'était qui nous paraissait vraiment essentiel pour agir dans ce champ, c'est de sensibiliser et d'embarquer en fait avec nous toutes nos tutelles, nos partenaires publics, mais aussi privés dans cette transformation majeure du spectacle vivant, parce qu'aujourd'hui, le constat qui nous a tous réunis à la naissance d'Arviva, c'est finalement qu'on était très isolés dans ces changements dans nos structures, dans le fait de vouloir changer ces pratiques. On se retrouvait très souvent dans des impasses, puisque alors moi, à la tête d'un ensemble, on est quand même nécessairement tributaire de la salle qui nous accueille, on est tributaire de plein de partenaires qu'on n'imagine pas dans toute la chaîne du spectacle vivant, et qui font qu'à un moment, vous ne pouvez pas changer seul, mais on doit tous changer ensemble. Donc ce guide pour l'action, il est à destination, encore une fois, donc de toute la chaîne du spectacle vivant. Il recouvre beaucoup de thématiques. Et le dernier point, c'est l'idée aussi de fédérer plus largement que l'aspect pratico-pratique de l'écologie. C'est très souvent désespérant d'être la tête dans le guidon à vouloir changer tout plein de petits points, parce que l'écologie, en fait, plus on défriche, plus on défriche. Et on va de plus en plus loin, jusqu'à repenser la communication, le mécénat, les outils financiers. Bref, on peut aller très très loin. Et donc, on avait aussi besoin d'élargir un petit peu le champ de vision. Et on espère, dès 2021, nous serons en mesure aussi d'organiser des rencontres nationales qui pourront allier beaucoup d'autres disciplines, en fait, puisqu'on s'aperçoit évidemment qu'aujourd'hui, l'écologie est un domaine transversal qui traverse les sciences de la sociologie, la philosophie, aux sciences dures. Et on a envie aussi d'élargir ce champ de vision du secteur des spectacles vivants, de se nourrir et de s'inspirer aussi de tout ça.
Très complet. Déjà, premier point, c'est l'important avec vous pour cette association Arviva. Il y a un site internet qui a été créé, arviva.org. La première phrase qu'on peut lire quand on se connecte au site, c'est « Pas de spectacle vivant sur une planète morte ». Solveig Barbier, comment est-ce que vous avez, vous, de votre point de vue, vous, eu envie, pourquoi vous avez eu envie de rejoindre justement cette fondation, cette association?
Tout d'abord parce que personnellement, j'étais engagée dans ma vie personnelle et puis qu'il commençait à y avoir une dichotomie entre ce que je faisais au travail et les pratiques que j'avais dans ma vie personnelle. Et donc, c'est parti de ce constat que j'avais commencé à mettre en place plein de choses pour modifier mon mode de vie, mais que quand j'allais au bureau, je n'appliquais plus rien de mes belles valeurs. Et c'est comme ça que on était plusieurs. Je pense que tous les fondateurs et fondatrices d'Arviva, on est un peu parti de ce constat et de cette idée qu'on avait un rôle à jouer dans nos structures.
Et ces pratiques, vous avez pu les répercuter justement dans ce guide d'action qu'évoquait Céline.
Exactement. L'idée, c'était de se dire que on voyait assez bien quand on était chez soi qu'il fallait éteindre les lumières, éteindre l'eau quand on se lavait les dents. tout ce qu'on lit depuis qu'on est assez jeune. Et on ne voyait pas forcément directement ce qu'on pouvait faire dans les structures du spectacle vivant, aussi parce que très souvent, on avait l'impression que l'objet de nos structures faisait qu'on pouvait être exempté de cette question écologique, que la culture n'avait pas besoin de se poser cette question-là. Et on ne voyait pas forcément ce qu'on pouvait faire. Et ce guide pour l'action, il recense, il est très très vaste, il recense plein de bonnes pratiques sur différents thèmes, que ce soit les transports, l'accueil du public, le bâtiment, les questions des outils financiers, les questions de l'organisation au bureau, et j'en passe, qui donnent des milliers, je pense, d'outils, qui recensent des initiatives, qui recensent des structures, des prestataires qui peuvent aider, et que ce soit que ça soit du début de commencer à vider sa boîte mail pour éviter de la pollution grise, à refuser toute tournée qui impliquerait de prendre l'avion ou à compenser ses émissions, bien que ça soit forcément une question qui soit c'est problématique comme manière d'envisager la tournée. Mais l'idée, c'est de donner plein d'outils et plein de matières à penser, parce qu'au début de toute cette réflexion d'Arviva, la solitude dont parlait Céline, c'est aussi celle de ne pas savoir par où commencer dans sa structure, de ne pas savoir où commencer à agir, comment impliquer les artistes, les personnels administratifs, et ce, à tous les niveaux de la chaîne. Donc c'est comme ça que ça a commencé et que ça continue, on l'espère, pour un peu de temps.
Thank you.
Giuliano Carmignola, Amandine Beyer, L'Incogniti, ici dans ce premier mouvement du concerto pour deux violons, Rium 505 d'Antonio Vivaldi. Amandine Beyer, L'Incogniti, qui sont membres justement de cette association Arviva que nous évoquons ce matin avec Céline Porte et Solveig Barbier. Il y a plein d'histoires comme ça, hein. Je pense en février dernier, l'Orchestre de l'Âge des Lumières a choisi de partir en tournée en train et non pas en avion, un geste écologique qui a un véritable impact puisque la formation a ainsi réduit de plus de 15 000 tonnes son impact CO2. Il y a aussi en Finlande l'Orchestre symphonique de Lahti qui s'est lui lancé dans un autre projet, atteindre la neutralité carbone de ses activités, une démarche qui s'inscrit dans le souhait de la municipalité de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre par habitant d'ici à 2025. Faut-il y dire, c'est une porte, que ces changements ne peuvent être initiés que par un changement peut-être de politique culturelle au sens large. Quels sont les leviers que vous possédez, que Arviva possède aujourd'hui, justement pour mettre en place une nouvelle politique pour une écologie de la musique vivante ?
Alors, il y a évidemment plein de leviers sur lesquels on doit agir. Moi, je tiens à rappeler quand même que c'est d'abord généralement par la sensibilisation des équipes, des structures elles-mêmes. Il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics. On sait à quel point la culture déjà manque de crédit, souvent avec des moyens en berne. Et c'est trop souvent une excuse, à mon sens, pour ne rien faire et être finalement dans la paralysie que de dire « il nous faudra plus de moyens pour faire notre transition écologique ». Pour ma part, je travaillais dans une structure qui était quand même relativement peu subventionnée. Nous étions trois permanents et nous avons, je pense, réussi à mettre de grandes choses en place. Et tous les fondateurs d'Arviva sont à peu près au même stade que moi. Et donc, ça n'est pas forcément une question tout simplement de moyens. C'est très souvent, par contre, en revanche, une question d'énergie humaine, de volonté, de pouvoir nommer à chaque fois un référent dans la structure qui va s'occuper du poste de transition écologique et pas forcément créer des postes. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait au goût du jour de créer des postes. Mais voilà, ça, je pense que c'est le premier point important parce que sinon, on peut ne rien faire pendant très 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 longtemps si on attend. Par contre, en revanche, et nous c'était l'objectif très fort avec Arviva, c'était de se positionner en tant qu'interlocuteur référent pour justement nos partenaires publics. Et je pense que ça va être la force au niveau de l'association, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu cette structuration avec une vraie gouvernance, pour vraiment interpeller tous les partenaires publics. Alors on voit qu'il y a eu des effets d'annonce aussi là sur le plan de relance, les fameux 20 millions dédiés à la transition écologique.
Le secteur de la culture.
On en attend beaucoup justement.
On a un peu plus Bachelot. De précision justement sur la répartition de ces 20 millions.
Alors, pas encore, il me semble. Nous n'avons pas encore d'informations sur la répartition de ces crédits. Est-ce que ça va être principalement des subventions d'investissement sur les parcs de matériel? C'est une vraie question. Est-ce que ça va être à destination principalement des équipes labellisées? C'en est une autre. En tout cas, nous, l'objectif à Arviva, c'était de regrouper donc déjà toutes les disciplines du spectacle vivant. C'est important parce que nous sommes ce matin à France Musique. Et nous sommes partis nous-mêmes d'une majeure musique à Arviva, mais qui maintenant est largement dépassée. Nous avons réussi à réunir, que ce soit des compagnies de danse, de cirque, de théâtre, des lieux, des théâtres de ville, des structures nationales, des orchestres nationaux, et j'en passe. Donc nous avons maintenant, je pense, un poids de représentativité significatif, et nous interpellons, ministères, DRAC, régions, collectivités territoriales, les sociétés civiles, qu'il ne faut pas oublier, tous les partenaires parapublics, en fait, qui gravitent, et ils sont nombreux, autour de la création, de la production et de la diffusion, et ce sont eux évidemment aussi qui vont accompagner cet élan de transition.
Solveig Barbier, comment adhérer à l'association? Comment rejoindre justement Arviva?
Eh ben c'est très simple, il suffit de nous envoyer un mail qui se trouve sur notre site internet. Tout est très simple, on nous envoie une demande d'adhésion. Pour le moment, les fondatrices et fondateurs que nous sommes appellent chaque personne qui souhaite adhérer. Et c'est très important parce que, comme le disait Céline, c'est aussi le nombre d'adhérents qui permet de faire du poids et qui permet de porter un discours qui est plus global et plus représentatif d'un milieu qui est divers. Donc voilà, il suffit de nous envoyer un mail, on recontacte très rapidement, on est très organisé. on essaye de voir un peu quels sont les besoins parce que...
Il y a différents statuts.
Il y a différents statuts, on a des statuts qui sont à la fois de sympathisants,
c'est-à-dire n'importe qui ne travaille pas dans le secteur et qui voudrait soutenir Arviva financièrement notamment. On a un statut d'ambassadeur qui serait pour des personnes qui travaillent dans le spectacle vivant mais qui ne voudraient pas forcément embarquer tout de suite leur structure parce qu'il faut savoir que pour rejoindre Arviva en tant que membre abonné, on demande à ce que ce soit une structure qui nous rejoigne et que cette structure ait déjà commencé à faire quelques actions vers une transition écologique. Donc c'est pour ça qu'on procède toujours à un rendez-vous téléphonique pour en parler. L'idée est d'avoir des adhérents qui sont vraiment moteurs et impliqués, qui veulent s'intégrer et qui veulent s'impliquer dans la réflexion. Et parce que, comme disait Céline, il y a une question de moyens humains et que cette transition, elle ne peut se faire que si à l'intérieur des structures elles-mêmes, il y a quelqu'un, une personne qui a envie de la faire parce qu'il n'y a pas de postes qui vont être créés pour ça. Et donc d'avoir envie de se faire une charte sur mesure en utilisant peut-être notre guide pour l'action et de faire une charte qui soit vraiment à la mesure des moyens et des possibilités des structures des adhérents.
On parle de poids de conviction, hein, Céline Porte. Est-ce que le Centre National de la Musique peut être un lieu, un interlocuteur quant à ces questions-là justement?
On l'espère très fortement. Ce qui est important de préciser, c'est que le CNM a intégré la compétence développement durable. Je dois dire que les musiques actuelles, donc qui étaient dans l'ancien périmètre du CNV, donc du Centre National de la Variété et de la Chanson, avaient déjà pris un peu plus à bras le corps que nous cette question de la transition écologique, ne serait-ce que parce que le poids des festivals de musique actuelle, très souvent, a un impact plus fort, plus fortement visible dans un temps très réduit sur un site circonscrit. Donc le CNV avait déjà en charge ces questions-là et demandait à travers les commissions d'aide en effet qu'il y ait des critères écologiques. On espère surtout que cette politique sera vraiment amplifiée au sein du CNM. Ce sont des questions qui sont absolument brûlantes, c'est le cas de le dire. Et maintenant, le fait que justement le CNM soit transversal sur toutes les esthétiques, on en attend aussi beaucoup justement, c'est-à-dire que la relance ne soit pas simplement économique. On a tous cette crainte pour le moment on est en plein dedans, mais post-Covid, de se dire qu'on va courir tous après les dates de n'importe quelle manière et finalement qu'on aura encore moins de temps et encore moins d'argent pour penser cette transition. Cette relance, on le voit tous et c'est peut-être le signal que le ministère a voulu envoyer en fléchant 20 millions sur la transition écologique. Elle doit prendre le temps aussi d'être réfléchi et qu'on ne se rembarque pas tous dans les mêmes modèles de production, mais d'export aussi. Et aujourd'hui,
de faire partie de la reconstruction.
Tout à fait. Et je pense que Lila Martial, la semaine dernière, pointait quelque chose de très juste et qu'on partage tous à Arviva, notamment dans la musique. On a ce modèle vraiment d'export à tout prix et de notoriété qui est basée sur le prestige de salles à l'international. Alors, à Arviva, on ne tient pas du tout le discours de dire on ne fait plus rien, on reste chez soi, et on ne produit plus, surtout de peur d'avoir une empreinte carbone. Ça n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est plutôt comment aujourd'hui produire, continuer les échanges internationaux, mais différemment. Ça veut dire prendre le temps, voyager à échelle humaine, et puis quand même repenser ce modèle de notoriété qui, je pense, nous a en fait tous engoncés dans des modèles qui ne nous correspondent plus, parce que les artistes de surproduction. Et parce que finalement, nous, on constate, alors là, on est à l'antenne de professionnels côté administratif et développement, mais nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les artistes, eux aussi, en fait, se retrouvent coincés et dans des dissonances très, très fortes, en fait, entre la manière dont ils vivent les tournées et puis, voilà, aujourd'hui, finalement, leurs convictions personnelles. Donc, on est là aussi pour prendre à bras le corps toutes ces contradictions-là.
Si ces questions, eh bien, vous brûlent, eh bien, connectez-vous sur Arviva. Arviva.org, site de cette association. Céline Porte et Solveig Barbiété, nos invités ce matin. Merci beaucoup à toutes les deux. Affaire à suivre, évidemment. On en reparlera dans cette matinale. Je vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
plaquette de Jacques Brel dans un arrangement de Fabien Touchard, interprété ici par l'ensemble Aedes et Mathieu Romano, membres de cette association Arviva que nous évoquions ce matin avec Céline Porte et Solveig Barbier. Une adresse, je vous le rappelle, pour vous informer, arviva.org.
Chère auditrice, chère auditeur, chère auditrice, chère auditeur.
Et c'est l'heure de la chronique de notre Christophe Chassol adoré. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia adorée. Aujourd'hui, je vous ai mis en loupe quatre mesures d'un pianiste, compositeur pas très connu, sous-estimé. Et il s'appelle David Sanchius et il a écrit un album en 1975 qui s'appelle Forest of Feeling, une forêt de sentiments. Et on écoute les quatre premières mesures que je vous ai mises en boucle. J'ai découvert ça quand j'avais 20 ans. Et ces quatre mesures, c'était la promesse d'un album super éclectique, de tout ce qu'il y avait que j'aimais, tout ce que j'aimais dans la musique. De la musique classique, du jazz, du rock et puis de la musique progressive. Vous savez comment ça va, sur quoi ça va aboutir ça, à peu près? Vous avez une idée?
Aucune idée.
C'est en 10, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Bon, alors on va vous faire la suite quand même, là. Allez, la suite! Bon voilà, ça ressemble à du jazz rock, c'est un produit de son époque, mais il est pas assez connu. Ce David Sanchius, qui est un musicien de studio, de session, qui a joué avec nombre de gens, Clapton, Springsteen, Santana, Peter Gabriel, Sting, Aretha Franklin, France Gall même, ou Seal, ou Youssou N'Dour. C'est un virtuose, alors il joue là sur cet album qui est en trio, il joue de l'orgamonde, du moog, du piano électrique, de la clavinette, de la guitare et des percussions. Il y a Billy Cobham, le fameux batteur, qui produit aussi cet album. Voilà, on entend les thèmes très épiques, là, les solos de piano. Je vous ai fait aussi encore un petit montage pour que vous voyez son utilisation du Moog ensuite. Le Moog qui est ce synthétiseur qui a été un peu créé pour concurrencer les guitaristes, pour que les claviers puissent se la jouer sur scène comme les guitaristes. Alors c'est un album éclectique. Il passe par plein de phases en fait, par plein de choses. Il y a du Dixieland, il y a vraiment du jazz, du rock pur et dur. Et moi j'entends vraiment toutes les formes de la musique classique dedans. Voilà, ça switch d'ambiance. Cet album est génial. Après, je suis pas fan de tout ce qu'il a fait après, mais cet album de 75, Forest of Feeling, est génial. Donc le gars a 22 ans quand même à l'époque, moi ça continue de me sidérer. On va écouter un autre extrait qui est la suite Cassandra. Alors je sais pas pourquoi le mot madrigal me vient à l'esprit, mais peut-être que c'est pas ça. Ça sonne un peu comme du Bach, mais c'est pas de la tarte à la crème comme de la musique classique avec un beat par-dessus. C'est autre chose. C'est même presque un mantra. Ça fait si sol la si do ré mi fa sol fa mi ré do si la sol do si la sol fa sol la fa sol la si do do ré ré si mi sol la si ré mi fa sol la sol fa mi sol la si fa fa do ré do mi do ré do fa do ré do sol la. On l'écoute. Ça vient après ce petit développement, vous allez voir. Et comment va-t-il venir là-dessus avec basse et batterie? On se le demande. Hein.
C'est une bonne question. Bonne chance.
Ouais, bonne chance. Sans que ça sonne beau. C'est un bon exercice.
J'avoue.
Bon, je sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais on va juste prendre un peu de temps pour écouter le Dixie, la fin de Dixie. Alors, il y a peu de morceaux qui accélèrent en cours de route. Hein. On fait pas ça souvent, hein, de nos jours, c'est tellement formaté. Moi, je trouve que cette époque était dingue, donc c'est pour ça que souvent, les morceaux que je vous fais écouter viennent de là, mais il y a une telle liberté dans cette musique progressive. On écoute Dixie, qui vient de Dixieland, donc du sud des États-Unis, des premiers jazz de la Nouvelle-Orléans. Le prochain extrait qui s'appelle Dixie. Et cet extrait va finir en musique électronique pure et expérimentale. Ça date de 75. Bon, ça accélère là. Ah, encore. Chercher tout cela. On se le demande, hein, Saskia.
Mais quand on est libre, comme ça, on tente les choses. Hein.
Ouais.
C'est ça qui est bien.
Quand on a 20 ans, on fait ce genre de choses.
Exactement. Oh, plus tard aussi, on peut le faire. Hein.
Ah, il n'y a pas autant de liberté pour moi. Il n'y a pas autant de... Ouais. Non, on s'est beaucoup plus contrôlé.
Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir fait découvrir cet album Forest of Feelings de
David
Sanchius. Ce matin, on réécoute cette chronique sur francemusique.fr, la podcast, et on retrouve avec bonheur la semaine prochaine, Christophe.
Bonne journée. Avec plaisir.
Juste avant que l'on se quitte, un petit mot sur notre concours du jour. Il fallait deviner l'instrument dont jouait Justin Taylor. Était-ce de l'orgue, du clavecin ou du tuba? Eh bien, c'était du clavecin, évidemment. Les gagnants seront recontactés par email pour remporter le disque Opus 1 de l'ensemble du Consort qui est paru fin août chez Alpha. Merci à toute l'équipe. Merci à Marie-Ferdinand, Jean-Frédéric, Maïwenn Lejean, Dalia et David Travailleur. À suivre Gabriel Olivier Aguillon sur France Musique avec son émission France Musique est à vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.